pour vous avoir donné des sujets, rappelez-vous. Les sujets sont enterrés quelque part, une série. Alors je suis toujours prêt à recevoir vos propositions. Bien entendu, je vous ai dit que je ne veux pas vous obliger à faire des exposés parce que vous êtes beaucoup trop nombreux. Mais ceux qui prennent des initiatives, j'encourage des initiatives positives. Donc voilà, c'est la porte est ouverte. Soit pour des exposés d'un quart d'heure devant tout le monde, ce qui vous permettra de voir comment, quelle est votre capacité pédagogique. Ça, c'est à ça que sert un exposé, ça n'est pas pour vous donner une note. La note, on s'en fout. Un constat. C'est l'exercice qui compte. Non. Pas de réflexion comme ça. Ce qui compte, c'est l'exercice. C'est le progrès. La note, elle vient de surcroît. Oui. Il ne faut pas penser à la note d'abord, il faut penser d'abord à l'exercice que l'on fait et au progrès qui peut résulter de cet exercice. Ah oui, c'est ça les études supérieures. On n'est pas au lycée ici. Alors, je vous avais dit que nous étudierions trois concepts importants. Le concept de valeur, le concept de l'avoir et le concept du pouvoir. Ces trois concepts-là sont des concepts clés. Ce sont des clés pour ouvrir un univers de pensée. L'univers de pensée qui va se mettre en place, qui va se construire, comme on construit une maison. Qui va se construire dans un espace culturel et géographique dont nous avons parlé la dernière fois, c'est-à-dire l'Arabie, l'Irak, la Syrie-Palestine, l'Égypte, le Maghreb et l'Andalousie, plus l'Iran. Bien sûr. Et dans cet espace-là, il va y avoir des mouvements qui sont des mouvements sociaux, on vous en parle en histoire, ce sont des mouvements politiques, mais ces mouvements sociaux et politiques sont accompagnés d'un mouvement intellectuel pour orienter l'action des groupes. Et le mouvement intellectuel, c'est le mouvement de la pensée. Et les trois problèmes importants qui se posent devant les populations de ces régions-là, ce sont les problèmes de l'avoir, quelle attitude avoir vis-à-vis des biens, on en a parlé avec l'analyse de la notion de mal dans le Coran, et nous avons vu comment le Coran a modifié l'attitude des hommes devant les biens que l'on peut posséder. Demain, il y a l'attitude devant la question du pouvoir. Comment organiser le pouvoir politique? Qui va détenir le pouvoir politique et qui va l'exercer dans ce nouveau monde qui est conquis militairement par les armées arabo-islamiques? Lorsque les arabo-musulmans ont conquis ce vaste espace qui va de l'Iran jusqu'à l'Andalousie, et il a bien fallu se poser des problèmes d'organisation administrative, d'organisation politique, donc des problèmes de pouvoir et d'institution politique. C'est un problème. C'est un problème nouveau. Il est nouveau parce que on le pose sur un espace géopolitique large. On le pose au niveau d'un empire. Alors qu'auparavant, il était posé au niveau de la tribu. En Arabie, ou au Maghreb, ou en Andalousie, ou en Iran, le problème du pouvoir était posé au niveau de la tribu, c'est-à-dire d'un groupe social réduit. Alors que maintenant, le problème du pouvoir va se poser au niveau d'un empire, qui comporte un grand nombre de populations extrêmement diverses. C'est donc le problème du pouvoir. Et puis le problème du valoir. de la valeur. Au nom de quoi et au nom de qui va-t-on instituer un pouvoir qui soit obéi? Pour que le pouvoir soit obéi aux dimensions d'un empire, il faut le légitimer. Et pour le légitimer, il faut présenter des valeurs auxquelles on adhère et expliquer les raisons pour lesquelles on adhère à ces valeurs. Et vous voyez que le problème clé, par conséquent, parmi les trois, c'est encore le problème de la valeur. Car le problème que pose le Coran en tant que texte religieux, c'est précisément le problème de la valeur. Car l'avoir et le pouvoir sont eux-mêmes subordonnés à la notion de valeur. On peut posséder un bien dans la mesure où ce bien présente une certaine valeur et que cette valeur est elle-même ordonnée, comme nous l'avons vu, à une volonté qui s'est exprimée dans le Coran, qui est la volonté de Dieu. Vous voyez comment l'avoir se subordonne d'après l'enseignement que les populations reçoivent. Nous sommes au 7e, 8e siècle. Alors comment, voilà pourquoi on va commencer par analyser justement la notion de valeur. Que comprend la valeur et sous quel visage se présente la valeur? Eh bien la valeur se présente sous trois visages différents. Quand on l'analyse, elle se présente sous le visage de l'éthique et de l'esthétique. Al-akhlaq ou le jamal, l'éthique et l'esthétique. Il y a des valeurs éthiques, des valeurs morales. L'honneur, par exemple, on en avait parlé, l'hospitalité, ce sont des valeurs éthiques. Le courage est une valeur éthique. Et toutes ces valeurs, vous avez expliqué comment elles jouent un rôle social et politique. Alors, cette valeur-là, c'est une valeur qui attire. Elle exerce une attirance, soit sur la conscience, lorsqu'il s'agit d'une valeur morale, la conscience adhère à la valeur morale, elle adhère à ce que l'on appelle al-fadila. Al-fadila, en arabe, al-fadila vient du mot fadala, vient de la racine fadala, qui veut dire être supérieur. De supériorité. Le fadila, c'est ce qui est supérieur, ce qui présente une valeur éminente. Et par conséquent, ce sera la vertu. Le fadila, c'est la vertu. Le fadila, les vertus morales. Donc la valeur, au sens éthique, elle attire. Elle attire la conscience. Qui distingue le bien du mal et qui déclarera le bien supérieur à Abdon, al-Khayru Abdon, il achète. C'est en ce sens que al-Khayr, le bien, au sens éthique, va exercer une attirance sur la conscience. Et cette notion de Khayr va exercer une assurance d'autant plus forte que tout l'enseignement coranique qui va être diffusé par l'intermédiaire des ulamas de ce temps-là, l'enseignement coranique insiste constamment sur la notion de bien dans toutes les conduites humaines. Et de même, la valeur attire aussi en ce qu'elle est belle, le hasan, le beau, ou bien encore le jamil. Et le mot hasan et le mot jamil ont à la fois un sens esthétique et un sens éthique. Ibn Arabi, par exemple, la ya'tarifu bil jamil. La ya'tarifu bil jamil. C'est-à-dire, il ne reconnaît pas le beau. Le beau, mais ici, le beau se confondant avec le bien moral ou le bien éthique. La ya'tarifu bil jamil, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas le bien qu'on lui fait. Le bien étant le beau. Et vous voyez que cette coïncidence entre Khalif ou Hassan ou Jamil, c'est exactement la notion grecque du beau, du bien et du vrai. Vous savez que la théorie grecque philosophique chez Platon du bien, c'est que le bien coïncide idéalement avec le beau et avec le vrai. Nous sommes très exactement dans cette même région, puisque Al-Khayr, dans le Coran, coïncide avec Al-Haq. Tout ce qui est Khayr est Haq. Et tout ce qui est Haq est aussi Hassan, Jamil. Voilà donc une direction de la pensée qui sera la direction éthique de la valeur qui va être diffusée dans tous les sermons qui sont prononcés les vendredis dans les mosquées et qui sont également exaltés dans toute une littérature, la littérature des contes. C'est ça. La littérature des contes populaires. Les contes populaires, lorsqu'ils racontent l'histoire des prophètes, par exemple, la vie des prophètes, que ça sur l'Anbiya, ces contes-là ont à la fois une finalité esthétique, puisque ce sont des contes, et qu'ils sont construits littérairement, ils ont donc une valeur esthétique. Mais en même temps et inséparablement, ils ont une valeur éthique, d'édification. L'Ibra, fa'tabiru ya ouli al-albabi, dit le Coran. Fa'tabiru ya ouli al-albabi. Apprenez un peu d'arabe. Voilà, c'est un verset du Coran qui revient très souvent dans le Coran. Fa'tabiru. Méditez. Prenez en considération. Ya'tabara. Ça vient de la racine abara. Qui donne le mot ibra. Al-ibratu, c'est la leçon morale. Al-ibra. فاعتبروا تيري لا عبرة استخرجوا العبرة من القصة فاعتبروا يا أولي الألباب تيري لا لسو أو فو يا أولي أو فو كي possède l'esprit l'intelligence الألباب أو فو كي est doué d'intelligence. Alors cet enseignement de la valeur, dans le sens éthique et esthétique, est lié aussi à la notion de hub, l'amour. L'amour étant un degré supérieur du bien. Lorsque l'on a l'amour, lorsqu'on pratique l'amour, on est ouvert à la pratique du bien. Et ceci, la pratique du bien est revendiquée et enseignée dans le but de constituer une umma solidaire et forte. Une umma, c'est-à-dire une communauté. Et vous voyez, d'après cette définition de la valeur, que la notion d'umma, telle qu'elle fonctionne ici, est une notion fondée sur une adhésion à des valeurs éthiques et religieuses, ce qui différencie cette notion d'umma de la notion actuelle de umma chez les Arabes. Umma, umam, c'est la nation, mais la nation au sens géopolitique du 19e siècle, européen. C'est-à-dire une nation qui est fondée sur des frontières géographiques et une définition juridique du territoire national. Ce qui est une définition tout à fait différente de la notion d'umma sans frontières, sans définition juridique, mais avec une définition et une référence éthique et spirituelle. Il faut bien voir cela, parce que aujourd'hui, dans le langage courant arabe, quand on dit Umma, on pense à la nation, et on perd de vue, bien sûr, cette notion beaucoup plus large de l'Umma, telle qu'elle s'édifie au 1er et 2e siècle de l'Égypte. La deuxième fonction de la valeur.
Est-ce que l'Umma a été rapportée par le Coran?
Est-ce que
l'Umma a été rapportée?
Bien sûr, bien sûr. Nous avons créé comme l'Umma qui nous a fait, par exemple. Comment? Il est souvent employé le mot Umma, Umma, mais souvent employé. Alors, deuxième ligne de développement de la notion de valeur. C'est la valeur qui oblige. C'est-à-dire que ici, ça n'est pas une adhésion libre de la personne, de la conscience, à une vertu parce qu'elle en reconnaît la supériorité. C'est une contrainte. Qu'on le veuille ou non, on doit obéir à ce qui est déclaré comme étant la valeur. Et ici, nous sommes dans le domaine de la fariva, al-fariva. J'ai oublié de ça ici. Al-fariva. Qu'est-ce que c'est que fariva? Ce n'est pas le devoir. Le devoir est un terme moderne. Le devoir...
L'obligation.
C'est une
sorte d'obligation.
Religieuse.
Oui, oui. Il faut le dire. C'est différent. C'est une obligation canonique. C'est-à-dire une obligation énoncée, non pas par un législateur humain, mais énoncé par le Coran. Et les obligations canoniques, ce sont des obligations qui pèsent sur tout homme. Et sans une obéissance à ces obligations, l'homme est en rupture avec Dieu. Et parmi ces obligations, nous en avons cinq obligations canoniques en islam, c'est-à-dire, quelles sont ces obligations? On dit aussi les piliers de l'islam, oui, arcanes islam.
Le jeûne, le ramadan, le prière,
oui. Oui. Oui, il faut les énoncer dans l'ordre. Il y a une hiérarchie.
La
première, c'est shahada. أو الشهادتان.
ثلاث
الزكاة. ثلاث. ولا. فسي الفرائض الخمس. Les obligations, les cinq obligations canoniques. Aucun individu ne peut s'échapper à ces obligations, et ces obligations sont des valeurs. Ce sont des valeurs religieuses. Et c'est par une soumission à ces obligations que les autres valeurs, comme ici par exemple les valeurs éthiques, prennent une signification. Sans une soumission au pharaïr, il n'y a pas de valeur éthique dans la perspective, évidemment, qui va être enseignée par les musulmans premier type de l'Égypte. Donc vous avez un pharaïr et vous avez aussi un wajib, l'obligatoire, le devoir, qui peut être un devoir purement juridique. Le devoir d'obéissance, par exemple, à l'émir, ou au sultan, ou au calife, c'est un devoir d'obéissance. Oui, mais nous allons voir comment ce devoir d'obéissance aux autorités, au calife par exemple, va essayer de se légitimer en fondant cette obligation sur la valeur éthique et religieuse. C'est parce que le calife garantit la validité de cet enseignement et la permanence de cet enseignement qu'il doit être obéi. Et c'est dans la mesure où lui-même se soumet à la hiérarchie des valeurs qui sont énoncées ici que le calife devra être obéi. Et quand on dit le calife, c'est toute la hiérarchie administrative qui dépend du calife. Les émirs, les cadis, toute l'administration que nomme le calife et qui est la représentante de l'autorité califale. Et vous voyez comment, par conséquent, ces deux notions se tiennent. De même qu'elles tiennent à la troisième notion que nous avons ici, la valeur qui autorise, c'est-à-dire qui porte un jugement, qui porte un hukm. Alors ici, nous allons être dans le domaine de la charia. La charia, étymologiquement, ça veut dire le chemin. Le chemin droit. La voie droite. C'est ça la charia. Et la charia, donc, c'est ce qui nous indique la voie droite sur laquelle nous devons cheminer. Et cette voie droite, c'est la loi religieuse. La charia, c'est la loi religieuse. Et quelle est la fonction de la loi religieuse qui va progressivement se mettre en place grâce justement aux différentes autorités nommées par le calife dans les différentes villes, comme les cadis. Les cadis vont jouer un rôle important, le Qadha, Qadhi, Qadha. Les cadis vont jouer un rôle important dans la définition de la charia. En quoi consiste la définition de la charia ? Ici, c'est extrêmement pratique et important.
C'est bon.
Lorsque les cadis reçoivent des plaintes ou des cas d'espèce à juger de la part de leurs administrés, nous nous trouvons par exemple à Fusta. Où ça se trouve, Fusta ?
Avec un pain, non? Avec un pain, non?
Oui, pardon, avec un pain.
Je crois que c'est le nom du vieux père. La première ville fondée par les musulmans sur l'emplacement de ce qui est actuellement le Caire. Alors nous sommes au Caire au premier siècle de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il y a au Caire à tout ça plutôt au premier siècle de l'Égypte? Quelle population y a-t-il?
Les Coptes.
Il y a des Coptes. C'est-à-dire des gens, des Africains. Ce sont des Africains qui parlent le Copte. Et qui conservent des relations avec l'ancienne Égypte pharaonique, bien qu'ils soient convertis au christianisme. Et ce sont ces gens-là qui, progressivement, vont être convertis à l'islam. Et à ces gens-là, on va progressivement enseigner les dispositions de la charia, c'est-à-dire ce que la valeur selon l'islam, autorise ou défend. Alors, par exemple, deux coptes se querellent à propos d'une répartition de biens, à propos d'un champ, à propos d'une irrigation avec le Nil, etc. Ils se querellent. Ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont se rendre
devant l'autorité locale. Ils vont se rendre devant la nouvelle autorité locale, car les problèmes étaient réglés auparavant par les institutions de la société copte avant l'intervention de l'islam. C'est maintenant que la nouvelle autorité, c'est ça qu'il faut voir historiquement. Il faut que vous ayez un peu d'imagination pour pouvoir réaliser qu'il y a une société ancienne qui est en place, qui a sa vie, ses institutions, ses croyances, sa langue, sa culture, elle a tout. Mais il y a une nouvelle hiérarchie de valeurs, justement, qui va être introduite. Il y a de nouveaux critères pour se prononcer sur les relations des hommes dans la société. Et cette nouvelle hiérarchie, ces nouveaux critères dérivent toujours de l'enseignement du Coran et de l'expérience du prophète à Médine, qui est enseigné, comme je vous l'ai dit, par les compagnons du prophète et les générations suivantes. Donc, le copte vient s'adresser au cadi, qui détient l'autorité lui-même du calife. Calife de Médine, au temps du califat de Médine, calife de Damas, au temps du califat, de Omeyyad, et plus tard, à partir de 750, calife, qui est à Bagdad. Alors on lui expose le cas, et que fait le cadi à ce moment-là? Le cadi va énoncer un hukm, hakama, yahkum, fil qariya, yahkum fil qariya, yahki birahihi fil qariya. C'est-à-dire, il va donner son jugement. Il va donner une qualification légale au cas qui lui est soumis. Et cette qualification légale qu'il va donner au cas d'espèce qui lui est soumis, il va le donner en se référant, encore une fois, à des critères. Quels sont ces critères? Ce sont des critères, par exemple, s'il s'agit d'un héritage, il s'agit d'un héritage, eh bien, il y a des critères qui sont énoncés dans le Coran. Ces nouveaux critères, ils sont nouveaux par rapport aux institutions, aux droits, chez les Coptes, ou bien chez les Berbères, au Maghreb, ou bien chez les Espagnols, en Andalousie, etc. Et c'est ainsi que progressivement, pas du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Et d'ailleurs, il y a des institutions locales qui n'ont jamais disparu jusqu'à présent. Par exemple, en Algérie, vous avez les Mozabites ou les Kabyles, le Kabylie, ou bien au Maroc, les populations du sud marocain, berbères, qui ont conservé leurs institutions juridiques berbères et qui n'ont pas reçu le choukoum selon la charia. Des populations kurdes en Irak ou en Iran, la même chose. Il ne faut donc pas imaginer que cette administration va imposer d'une façon uniforme la nouvelle loi à tout le monde. Mais cette nouvelle loi va s'imposer effectivement surtout dans les villes, les principales villes comme nous l'avons dit. Alors la formation de la charia consiste à définir les choses, c'est-à-dire les droits de chacun. Et les droits de chacun constituent des devoirs pour l'autre. Et vous voyez donc qu'il y a une relation entre le choukou et le wajib. Mes droits sont des devoirs pour l'autre. Et vos droits sont des devoirs pour moi. Droits et devoirs sont par conséquent liés. Et c'est ce qui définit la relation des hommes en société. Et pour cette définition, il y a une notion qui deviendra de plus en plus importante dans la réflexion juridique et dans la réflexion éthique et philosophique, c'est la notion de adl, c'est-à-dire de justice. Nous comprenons bien cette analyse de la notion de valeur, nous pouvons comprendre pourquoi les premières discussions théoriques qui s'engagent à Médine, à Damas, à Basra, à Koufa, pendant le premier siècle de l'Égypte, ces premières discussions vont porter sur trois grands problèmes qui vont être discutés d'ailleurs au-delà du deuxième siècle de l'Égypte. Ce sont des problèmes qui ne sont pas résolus jusqu'à nos jours, mais ce sont des problèmes qui ont alimenté la réflexion à la fois philosophique, théologique et politique chez les arabo-musulmans, d'abord d'une façon pratique, pragmatique, c'est-à-dire d'une façon qui essaye de répondre à des cas pratiques qui se posent au jour le jour dans différentes sociétés, ensuite d'une façon abstraite et spéculative. Il faut bien distinguer les deux moments de la réflexion. Il y a deux moments de la réflexion arabo-islamique. Un moment, je répète, pragmatique. Orienté vers la pratique quotidienne. Parce que, encore une fois, les populations qu'il s'agit d'administrer ne connaissent pas, de prime abord, une science qui elle-même est en train de s'élaborer. Ceci va durer surtout pendant le premier et le deuxième siècle de l'Égypte. Ensuite, à partir de mettons de 750, entre 750 et 800, la spéculation va devenir théorique, abstraite. Elle deviendra d'autant plus abstraite que il y a des concepts philosophiques
qui vont entrer en action à partir de la philosophie grecque, comme nous avons dit la dernière fois. Alors nous allons considérer aujourd'hui la première étape, qui est l'étape pratique, sur trois problèmes par conséquent. Voici les trois problèmes. Premièrement, le pouvoir et la légitimité. Deuxièmement, al-jabr ou al-qadar. Al-jabr ou al-qadar. Qu'est-ce que c'est ? Le libre arbitre et la prédestination. Al-jabr ne veut pas dire exactement prédestination, parce que quand on traduit prédestination, on prend déjà position sur certaines solutions du problème. En réalité, al-jabr, c'est la contrainte. Al-jabr. Maintenant, l'il-ad haqqul jabr al-ibnati. C'est-à-dire, le père a un droit de contrainte sur sa fille. C'est-à-dire un droit selon la charia. Voilà un trait de droit, une solution de droit. Dans la charia, le droit musulman, la loi musulmane, le père a un droit de contrainte. Comme le père français du XVIIe siècle, a un droit de contrainte sur ses filles. Lorsque l'une de ses filles veut se marier, par exemple, eh bien c'est son père qui décide. La fille n'a pas le droit de se prononcer sur son propre mariage. Et c'est une loi qui est encore appliquée aujourd'hui. Elle n'est pas encore abrogée. Voilà.
Mais pourquoi devant Kavi, il faudrait que la fille soit consacrée, etc. C'est nouveau.
C'est pour essayer de faire évoluer un peu, justement. Un droit,
mais c'est vrai que c'est un droit
c'est un droit, on essaye de faire évoluer un droit archaïque. Alors, progressivement, on essaye d'habituer les gens à ce que la femme donne quand même un consentement au moins formel. Mais en réalité, les choses se sont déroulées bien avant qu'on vienne se présenter devant le calife. Personne ose dire non au moment propice. Oui. Bon, il faut pas que je fasse la révolte.
Non.
Oui, alors vous voyez, évidemment, je comprends très bien que vous désiriez immédiatement faire découvrir notre cours vers l'actualité, vers le problème actuel. Ça fait légitime. Mais enfin, ce que nous sommes en train de faire, ce sont les choses telles que, justement, elles commencent à se mettre en place au premier siècle. Nous sommes tout au début de cette histoire. Alors, au premier siècle de l'Égypte, il faut bien vous dire qu'il n'y avait pas des jeunes filles comme vous qui avaient toutes sortes de points de vue sur cette histoire-là. En ce moment-là, nous sommes dans un contexte tribal. Et dans un contexte tribal, ce droit de jobre a une fonction et une signification. Alors, il ne faut pas juger de cette chose-là, de ce droit-là, avec une conception moderne. Il faut en juger à l'intérieur de la structure et du fonctionnement de la société tribale. Mais restons, s'il vous plaît, des historiens qui essayent de voir comment les choses ont été conçues au départ, et aussi des sociologues qui essayent de comprendre quelle est la signification d'une règle de droit dans le fonctionnement d'une société qui n'est pas la nôtre. Il y a ces mécanismes propres. Alors ne mélangeons pas les époques et ne mélangeons pas les types de société. C'est toujours ce que l'on fait dès qu'on commence à parler de ces problèmes-là. Dès qu'on dit la femme, la situation de la femme en femme, etc., c'est fini. Tout est embrouillé, tout est en voie rouge partout. Ou noir.
Je vais bien essayer de respecter les directives que vous avez données. Est-ce que le Jabr, du père sur sa fille, existe avant l'islam dans le monde? Est-ce que c'est une notion qui existe dans le Coran? Non, bien, c'est Michel Raïd qui l'a essayé de l'adapter. C'est
Ce sont les Moucharéens qui l'ont adapté, c'est-à-dire les législateurs. Ce sont les législateurs qui l'ont.
Introduit,
mais les législateurs ne l'ont pas inventé. Les législateurs expriment toujours un état de droit existant dans une société. Et à la société à Médine, qui est la tradition continuée par le droit maléfique, c'est surtout le droit maléfique d'ailleurs qui insiste sur cette règle, donc le droit qui triomphe en Afrique du Nord. S'il vous plaît, il faudrait éteindre vos cigarettes parce que je vous ai déjà dit, nous sommes extrêmement nombreux et vous pouvez quand même vous passer de fumer pendant une petite heure. Un peu de respect, le droit des uns, c'est le devoir des autres. Mais ce n'est pas des mots que je dis. Voilà. Pardon?
Est-ce qu'il
n'y
a jamais eu de
Moucharéa? Hélas, non. Mais oui. Et c'est une remarque, en effet, qui doit être faite d'un point de vue historique. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de Fouqaha, de juriste femme. Ce qui explique bien sûr que les femmes, le statut des femmes, ait été traité comme il l'a été, mais pas seulement dans la tradition musulmane, attention, hein. C'est exactement la même chose dans la tradition occidentale. Alors, là aussi, il faut être historien et sociologue. Il ne faut pas opposer des choses comme ça sur la base de ce que nous voyons maintenant. Ce serait faire des erreurs d'interprétation.
Alors, il n'y a non seulement pas de Moucharéa, mais il n'y a pas aussi de juges femmes. Le seul pays, à ma connaissance, où existe des juges femmes, c'est la Tunisie, dans les pays musulmans et arabes.
Quand?
La Tunisie, à Aoud.
Non,
je dis que cette situation, c'est pas utile jusqu'à maintenant.
Nous sommes au premier siècle de l'Égypte.
Comme juge femme, par rapport à
Ouad Ben. Ça n'est pas la peine de faire intervenir cette chose-là. Il faut considérer la réalité du droit qui s'est imposé pendant des siècles et qui continue de s'imposer encore maintenant. Que le meurtre des filles ait été supprimé, c'est une excellente chose. Mais ça ne saurait constituer
une...
Parce que ce qui est obligatoire, par exemple, comme je vous ai dit, pour les obligations canoniques, ce sont des obligations est édicté par Dieu, et pour une conscience religieuse, là, votre remarque, c'est la remarque d'une conscience illuminée par la philosophie des Lumières. C'est-à-dire par une philosophie laïque qui ne reconnaît pas du Fils,
qui ne reconnaît pas. Ah ben, mais soyons historiens, mademoiselle.
Mais justement, en tant qu'historien, vous mettez une lumière religieuse sur le bon valeur.
Je vous décris le contenu des consciences. C'est le contenu des consciences. Comment la valeur a été enseignée aux gens? Et comment les gens l'ont-ils reçu? Quand on dit à quelqu'un, tu fais la prière, et quand tu fais la prière, tu entres dans un système de valeur qui est voulu par Dieu. C'est cela qui va construire ta conscience. Et c'est cela qui va conditionner sa perception de ce qui pour lui est la valeur. Ah, c'est difficile, hein? Vous croyez toujours que les choses que l'on dit, en historien, en analyse, ce sont des choses que l'on prend pour soi. Pas du tout. Vous ne savez pas du tout quelle est ma position à l'égard de ces choses-là. Moi, j'essaye de voir comment les choses se sont passées, c'est tout. Et il est important de présenter cette analyse de la valeur, encore une fois, telle qu'elle va fonctionner dans la pensée, dans la culture, dans la société, pendant des siècles, et telle qu'elle fonctionne encore pour des millions d'hommes. Ça n'est pas fini. Ce schéma n'est pas périmé. Il est certes... Il date du 1er siècle, au 1er siècle, ça commence, mais il n'est pas périmé. Des hommes meurent aujourd'hui pour que ce schéma arrive à prévaloir. Le combat de Khomeini, c'est pour ce schéma. Tout au moins, lui, je ne parle pas des autres forces sociales qui sont en jeu en Iran, ou qui sont en jeu en Turquie, ou qui sont en jeu en Afghanistan, ou qui sont en jeu au Pakistan, ou qui sont en jeu en Arabie, et partout dans le monde musulman. On se bat pour ce schéma, pour la validité de ce schéma, et contre votre remarque. Parce que votre remarque provient de la philosophie des Lumières laïques, qui consiste à opérer une coupure entre justement la référence à Dieu pour définir la valeur et pour ne conserver que la référence à ce que la raison humaine, avec un R majuscule, décrète en toute autonomie comme étant la valeur. Mais vous savez, la raison humaine.
Elle dit que ce mot valeur dans lequel vous mettez les choses, c'est pas ce mot-là qui se utilise, c'est un mot. Valeur veut dire autre chose. Moi, je ne suis pas d'accord sur le terme valeur, c'est tout.
Oui. Alors, je continue donc les trois problèmes, c'est le qadar, le jabr et le qadar, et le troisième problème, c'est la foi et les œuvres. Al-Iman, Al-Iman, Al-A'mal, la foi et les œuvres. إنما الأعمال بالنيات. Oui. الأعمال. Les œuvres. Les œuvres morales, les œuvres religieuses que l'homme fait dans sa vie. Bien. Alors, pouvoir et légitimité. Premier problème. Pouvoir et légitimité. Il s'agit du pouvoir dans la cité, donc du pouvoir politique. Alors, pour décider de l'organisation du pouvoir dans la cité, on va se référer à quoi? Sur quoi va-t-on fonder la légitimité du pouvoir? De quels éléments dispose-t-on en 632? Et après 632, de quels éléments dispose-t-on pour pouvoir régler la question du pouvoir politique. Alors on dispose de deux éléments, ou de deux traditions. D'une part, un élément religieux. Qui comporte lui-même l'enseignement coranique et ce que nous pouvons appeler l'expérience de Médine. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de Médine? C'est l'action politique et religieuse conduite par Mohammed à Médine pendant 10 ans, de 622 à 632. Mohammed a été le chef d'une cité, il a gouverné, il a pris des décisions en chef, des décisions politiques, des décisions administratives, des décisions juridiques. Et en même temps, il a continué à donner un enseignement de type religieux. Et cet ensemble-là, cet ensemble d'activités constitue ce qu'on peut appeler l'expérience de Médine. Et cette expérience va servir de référence à ceux qui, après lui, vont réfléchir sur l'organisation du pouvoir. On a donc deux sources de type religieux, le Coran et l'expérience de Médine. Ça, c'est une direction. La seconde direction, c'est la tradition de la société arabe avant l'islam, c'est les mécanismes de dévolution du pouvoir à l'intérieur de cette société arabe avant que n'intervienne le phénomène Coran.
On dit pré-islamique ou anté-islamique pour la période d'avant l'islam?
On peut dire les deux, pré-islamique ou anté-islamique, ça revient au même. Ça veut dire chronologiquement avant l'intervention de l'islam. Lorsque vous lisez vos manuels d'histoire, généralement, on insiste surtout sur la ligne religieuse de ce qui s'est passé. Et l'on vous enseigne que les 4 premiers califes qui ont succédé au prophète en 632 lui ont succédé en vertu de considérations religieuses. Et que, par exemple, Abu Bakr a été élu par les compagnons du prophète, et que Omar, qui lui a succédé, a été également élu par les compagnons du prophète, mais que, justement, après la mort de Omar, on a commencé à se discuter au sujet de la légitimité, et les uns vont dire que la légitimité du pouvoir revient aux gens de la tribu du prophète, et les autres vont dire la légitimité du pouvoir revient à la tribu du prophète, certes, mais à l'intérieur de cette tribu, il revient d'abord aux membres de la famille de Mohammed, et seulement à eux. Mais cette présentation est une présentation insuffisante parce que elle ne tient pas compte de la deuxième ligne que je vous ai indiquée, c'est-à-dire la tradition sociale, politique, arabe, avant l'islam, qui n'a pas été évidemment éliminée du fait de l'apparition du Coran du jour au lendemain. Alors il faut tenir compte des deux. Et s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des assassinats des premiers califes, c'est parce que justement, les Asabiyas, rappelez-vous le mot Asabiyas, c'est-à-dire les solidarités tribales
tel qu'elle jouait avant l'islam, ont continué de jouer après pour avoir le pouvoir, pour la conquête du pouvoir. Donc il faut en réalité regarder comment l'inspiration simplement religieuse va progressivement s'imposer aux esprits pour modifier les jeux traditionnels de la Asabiyya. C'est cela le problème le plus important qu'il faudrait examiner au sujet du pouvoir et de la légitimité.
Vous avez une définition d'abîme suivant laquelle un pouvoir est un savoir religieux et traditionnel, c'est-à-dire d'un peu islamique. C'est comme vous avez dégagé tout à l'heure l'autre ville, une troisième, sur la ligne de parenté avec Mohammed lui-même, parce que c'est quand bien qu'il y a une relation avec le phénomène tribal un peu islamiste, c'est bien un lien de parenté, mais quand même c'est beaucoup plus induit d'un phénomène religieux. Pas mal de gens ont dit que Amir Mérissal, c'est-à-dire de revenir le califat, parce que bien qu'il est parent à Mohamed, il est parent à Mohamed qui est l'homme qui a amené le Coran. Bien précis.
Oui.
C'est une grande ligne, il me semble, que vous
avez dégagé. Oui, oui. On va y revenir.
Monsieur,
mais est-ce que
le prophète
n'a
jamais essayé d'évoquer ce problème d'après sa mort ou de
répondre à la question? Non, non, non. Les grands hommes ne pensent pas à leur succession. C'est en définition, un grand homme n'a pas de succession.
C'est dommage. Hein. Non, parce que c'est toujours la catastrophe après eux.
Oui.
Il aurait dit
ça. Il n'y a rien de dire, c'est dommage, il faut voir simplement comment les choses, essayer de voir comment les choses se sont passées.
Et comment, et quel est-ce tiré pour l'avenir?
Les choses se sont passées dans la lutte entre des puissances tribales, comme je vous l'ai déjà expliqué, et comme je pense M. Rosenberger a dû vous l'expliquer aussi, parce que ça tient aussi à l'histoire politique. La lutte entre les deux clans de Quraysh, en réalité, c'est la lutte, comme je vous l'ai dit, entre les Banu Hashim contre les Banu Sufyan. Voilà les deux clans qui s'affrontent. Et ils ne s'affrontent pas seulement en 632. Ils s'étaient déjà affrontés à la Mecque depuis longtemps, depuis au moins deux siècles à la Mecque, avant l'islam. Il y avait des luttes à l'intérieur de la tribu de Quraysh entre ces deux clans, les Banu Hashim auxquels appartient le prophète, et Ali, et les Banu Sufyan, auquel appartient le calife Othman, le troisième calife, et Muawiya. Alors vous voyez qu'il faut considérer l'aspect sociologique des luttes pour en vertu par exemple du verset coranique qui dit Innama akramukum indallahi atqakum. Il faut retenir ce verset. En même temps, ça vous donne un peu de vocabulaire pour ceux qui en ont besoin. Voilà, il m'en a akramukum indallahi. إنما أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم la racine كرامة est une racine très très importante, c'est une valeur. Voilà encore une valeur.
Karama, c'est la dignité. Et qu'est-ce qui définit la dignité de la personne humaine? C'est la situation de cette personne par rapport à l'ensemble des valeurs reconnues par le groupe. Plus on est respectueux des valeurs reconnues par le groupe, plus on jouit d'une haute dignité aux yeux de ce groupe. Alors, innama akramukum, celui d'entre vous qui jouit du maximum de dignité, de la plus haute dignité, aux yeux de Dieu, auprès de Dieu, atkakum, ça vient de waqa, atka, c'est-à-dire celui qui a la plus grande crainte respectueuse vis-à-vis de Dieu. Le plus pieux, le plus digne d'entre vous, c'est le plus pieux. C'est celui qui fait preuve de la plus grande piété à l'égard de Dieu. Que veut dire ce verset?
C'est
selon la hiérarchie des valeurs de l'Arabie avant l'islam.
C'était pas ça.
Le critère c'était innama akramukum.
Akramukum.
Ashrafukum nasaban. Ashrafukum nasaban. D'abord il n'y a pas cela. On le supprime. Et akramukum, ashrafukum. Ou bien a'alakum. Le plus digne dans la société arabe avant l'islam. Celui qui jouit de la plus haute considération, c'est celui qui a l'ascendance. L'ascendance, la généalogie, nasab, la plus élevée. C'est celui donc qui appartient à une tribu qui a réussi à acquérir une puissance, une force, et qui appartient à un nasab, à une généalogie considérée comme noble. Donc, la personne humaine, la valeur de la personne humaine est mesurée selon la naissance, comme dans la noblesse de l'ancien régime, par rapport aux roturiers et aux tiers d'État, elle n'est pas mesurée d'après la valeur personnelle que la personne acquiert par sa relation à Dieu. Et quand on dit la relation à Dieu, bien sûr, c'est une relation qui transcende toutes les relations à la société, toutes les relations aux autres. Vous voyez que le critère, par conséquent, a complètement changé. On passe d'un critère de solidarité politique et sociale à un critère essentiellement moral et religieux. Et c'est ce passage-là qui va être extrêmement difficile pour le pouvoir, pour la légitimation du pouvoir. Parce que les uns vont dire que pour déterminer le chef le plus valable de la cité, il faut avoir une référence au prophète, parce que le prophète est précisément celui qui réalise le plus haut degré de dignité selon ce verset. Et par conséquent, on dira les descendants du prophète participent à cette noblesse. Mais ceux qui disent ainsi, vous voyez qu'ils mélangent le deuxième critère, ils font passer le deuxième critère à l'intérieur du premier, en réalité. Parce qu'ils restent dans le nasab, ils restent dans la généalogie.
Ils restent influencés par ça.
Et voilà pourquoi vous avez une autre fraction de musulmans qui va dire pas de nasab. C'est pas ça que veut dire le verset. Pas de nasab, pas de référence au prophète. Pas de référence à la famille du prophète. Pas de référence même à la tribu de Quraysh. Le plus digne des hommes, c'est celui qui a les aptitudes nécessaires pour comprendre le Coran comme il convient et l'appliquer. Fût-il un homme originaire d'Afrique ou de n'importe où, quel qu'il soit, pourvu qu'il remplisse ses conditions. Et c'est la position des kharijites, des khawarijites. Les khawarij. Il y a en effet trois positions vis-à-vis du problème du pouvoir et de la légitimité, trois positions qui vont progressivement se dégager, une position comme je viens de vous le dire, légitimiste dans le sens qu'elle essaye d'introduire le critère du nasab à l'intérieur du critère religieux. C'est la position qui deviendra celle des chiites. Il faut retenir tous ces mots en arabe. Les chiites, en effet, comme vous le savez, disent que le pouvoir légitime doit revenir uniquement aux descendants du prophète. Donc, il y a l'idée de nasab est tout à fait centrale. Mais en même temps, ce n'est pas uniquement le nasab, évidemment, sur lequel il s'appuie. Il s'appuie sur le nasab, certes, mais dans la mesure où le prophète et ses descendants possèdent le charisme, c'est-à-dire la puissance surnaturelle qui les soutient par la révélation et par le choix que Dieu a fait selon. Ce n'est pas moi qui parle, peut-être que je le précise. Je ne fais que rapporter des théories auxquelles on continue de croire, n'est-ce pas ? Eh bien, on dit que les descendants du prophète participent au charisme de Mohammed, c'est-à-dire au pouvoir surnaturel qui est conféré à Mohammed du fait que Dieu l'a choisi pour lui donner la révélation. Donc vous voyez qu'on intègre à la fois le nasab, mais en l'englobant dans une vue spirituelle, dans une vue religieuse, qui est celle du charisme. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir charismatique. Et l'imam chiite, les imams chiites et notre ami Khomeini participent à ce charisme jusqu'à nos jours. Il détient une parcelle de ce charisme jusqu'à nos jours. Et c'est en vertu de cette force, justement, qu'il arrive à exercer effectivement l'ascendant qu'il exerce. Heureusement que nous avons cet exemple proche de nous, pour que vous ne croyez pas que ces histoires sont des histoires abracadabrantes qui ne correspondent à rien. Elles correspondent, comme vous le voyez, à quelque chose de vécu. La troisième position, ce sera la position du fait accompli. C'est-à-dire la position acquise par la force. Par la prise du pouvoir. Je prends le pouvoir, je suis là, j'ai le pouvoir, et je vais vous dire ensuite quelle est l'orthodoxie, quelle est la légitimité. Mais oui, je ne blague pas. C'est ainsi que se passent les choses à partir de l'assassinat de Ali. Ali est assassiné en 661, c'est un coup de force. C'est un coup de force. Et la scène politique étant ainsi dégagée, si je puis dire, Muawiya prend le pouvoir et se proclame calife à Damas. Et Muawiya appartient au clan ennemi de Ali et de Mohammed au Banu Sufyan. Il prend le pouvoir par la force et il le garde par la force, mais il ne peut pas se passer de la légitimation. Il ne peut pas se passer de l'idéologie de la légitimation. Il faut qu'il démontre que selon la religion, selon l'enseignement de la religion, il a le droit d'être là où il est. Et alors va commencer justement le travail des fuqaha, le travail des intellectuels en relation avec ce pouvoir pour construire une théorie du califat qui s'adapte à ce fait accompli, acquis par la force. Et la théorie soumise va dire Ati'u li ulil amri, Ati'u ulil amri minkum.
C'est dans le Coran, non?
Il y a tout dans le Coran. Tout ce qu'on veut. C'est un arsenal qu'on peut utiliser dans toutes les directions. Par exemple, les sunnites, ils vont chercher, ils vont pas appuyer là-dessus. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. En revanche, ils trouvent quelque chose qui va les avantager beaucoup. C'est qu'à un moment donné, il y a un verset qui dit
Wa apéro ou l'amri.
Voilà. Alors là, c'est un verset qui est répété dans tous les manuels de droit. Tous. Parce que c'est un verset de base pour légitimer la prise de pouvoir, le fait accompli. Que veut dire ce verset? Et obéissez, marquez votre soumission à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Ben voilà.
C'est fait.
Et pour appliquer ce verset, les Omeyyades vont nommer des gouverneurs à Basra et à Koufa, comme Al-Hajjaj, le gouverneur Al-Hajjaj dont on vous a parlé, et on vous a dit quel a été le rôle du gouverneur Al-Hajjaj pour soumettre les opposants au califat Omeyyade, c'est-à-dire les chiites et les kharijites, essentiellement. Alors, c'est une histoire évidemment qui va continuer, elle est très longue. Et nous reviendrons la prochaine fois.